Bon, à chaque premier lundi du mois, comme vous le savez, c'est la chronique de la Maison des familles qui vient nous parler de différents sujets. Puis ce matin, on va parler de dépression postpartum avec Mme Caroline Boudreau, qui est coordonnatrice en périnatalité, c'est bien ça?
Oui, bonjour.
Bonjour, bon matin.
Bonjour.
Et également Mme Rebecca Lacasse, qui est assistante en périnatalité.
Oui, exactement, bonjour.
Bonjour, bon matin. Et on a également la présence de...
Julia
qui est avec nous.
Julia qui est bébé.
Oui, elle va avoir 9 mois là, dans 2 semaines.
Ah, mon Dieu, Seigneur. C'est tout neuf.
Hey, ça met un sourire dans le visage. J'ai juste regardé tout à l'heure.
Ah, ben oui, puis elle veut jaser en plus. On aurait dû lui donner un micro.
Oui.
Alors donc, ce matin, on est là pour vous entretenir justement sur la fameuse dépression postpartum. Nous, en tant que grands-parents, on a déjà peut-être passé par là, mais c'est pas mal terminé. Mais sauf que on est intéressé par le sujet parce qu'on a des brus, on a des filles qui ont des petits enfants, puis des fois on peut-être leur apporter un petit peu d'aide. Et puis vous êtes ici ce matin pour nous en parler un petit peu de cette fameuse dépression là.
Oui, c'est ça. Je pense que tu fais référence là, à vous que vous êtes déjà passé par là. Je pense peut-être que c'était moins connu ou moins, on va dire, populaire autrefois. Maintenant, c'est une problématique de laquelle on discute de plus en plus puis qui affecte clairement nos familles.
Vous dites problématique?
Oui, quand même. Oui, c'est plusieurs familles. Puis je dis famille parce qu'en fait, c'est ça, c'est un diagnostic qu'on associe beaucoup aux mères. Donc, c'est un côté féminin de devenir un parent. En fait, depuis quelques années, c'est de plus en plus reconnu qu'il y a aussi des hommes qui passent par une dépression.
Postpartum.
Les papas aussi peuvent le vivre ou les partenaires.
De façon différente, j'imagine.
Oui, les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on passe par une période de dépression, dans le fond, qui est vraiment liée à l'arrivée de bébé, au changement dans la famille et tout ça. On va aussi se situer dans les premiers 2 ans de l'arrivée de bébé. Souvent, on pense à la dépression postpartum. Si j'ai passé au travers les premiers mois, ça va. Ouais. Mais finalement, non, ça peut vraiment se déclarer plus tard.
Donc,
ça va rester lié à l'arrivée de bébé, mais ça pourrait être après la première année de vie.
Est-ce qu'il peut avoir des cycles, genre, on l'est, puis on a l'impression que c'est parti, et là, ça revient. Tu sais, on dit, j'ai passé, puis ça peut revenir comme une deuxième fois, une deuxième vague, on va peut-être dire comme ça.
C'est certain que c'est un peu comme une dépression... qu'on va dire générale.
Conventionnelle,
oui. Oui, conventionnelle. Donc, il peut avoir des hauts et des bas. On peut avoir des périodes plus sombres, des périodes plus creuses où on va avoir beaucoup plus de symptômes. On peut avoir, ça va un petit peu mieux, puis là, on voit que les symptômes reviennent. Fait que c'est d'être vraiment, vraiment vigilant, d'analyser un peu l'ensemble de l'œuvre. La personne peut avoir des super belles journées, comme que le lendemain matin, les symptômes reviennent en force. Fait que c'est vraiment d'avoir un portrait global de la situation, de regarder plusieurs variantes, de regarder est-ce qu'elle mange bien, est-ce qu'elle est capable de bien s'alimenter, d'avoir des activités.
Le repos, j'imagine, doit rentrer en ligne de compte.
Oui, exactement. Oui. C'est ça que ma collègue disait juste avant. On parle aussi des dépressions un petit peu plus tardives, parce que là, on peut analyser justement que la femme commence, et l'homme, commence à avoir une dette de sommeil, revient au travail, puis là, avec la charge mentale, avec tout qui arrive, on se rend compte justement qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de dépression tardive qu'on pense.
OK. Puis
ça peut arriver non seulement à un premier enfant, mais aussi à un deuxième ou à un troisième.
Exact. On n'est jamais vraiment à l'abri. Tout dépendamment, c'est ça, comment on s'est adapté à notre premier enfant, qu'est-ce qui arrive, les circonstances particulières du deuxième, du troisième. Des fois, notre couple n'est pas tout à fait à la même place. Des fois, notre vie. On a parlé d'emploi tout à l'heure, donc c'est pas parce qu'on a déjà accueilli un enfant puis que ça s'est bien passé qu'on est nécessairement à l'abri.
C'est pas quelque chose de génétique. Ça peut arriver, même si, comme vous dites, ça a bien été au premier enfant. Deuxième enfant, situation différente un petit peu. Là, on peut être plus susceptible à... Si je comprends bien.
Exactement. C'est à chaque fois à l'arrivée d'un enfant. Les statistiques sont vraiment claires pour l'ensemble de la population. Quand on a un enfant, on se disait tout à l'heure, c'est supposé être une période heureuse de la vie, nos plus beaux moments de vie. En fait, les études prouvent plutôt le contraire. Quand on a un enfant, le niveau de bonheur général dans la population complète qui a des enfants, pendant les 2 premières années, voire les 5 premières années, le niveau de bonheur a tendance à descendre un petit peu. Le niveau global.
C'est paradoxal.
Donc, c'est une grosse adaptation. Avoir un enfant, ça change toutes les facettes de notre vie. Donc, à chaque fois, on s'expose, dans le fond, à ce que ça puisse nous arriver.
Puis la femme peut aussi, la mère de famille, la jeune mère, peut faire face aussi à des préjugés, se dire, ben voyons, ça se peut pas, j'ai tous les éléments en main pour être heureuse, mais bon, comment ça se fait que je file pas, ça va pas bien, puis les autres, l'entourage peuvent arriver et dire, ben voyons donc, t'as déjà relevé des défis, t'as déjà connu c'est quoi, puis comment ça se fait que t'es comme ça? Ben, c'est difficile d'abaisser les préjugés.
Ça, c'est notre génération, où est-ce qu'on est fort, ouais, nous, mais la génération d'aujourd'hui, c'est peut-être différent, parce que nous autres, hey, voyons, t'es capable, puis tu sais...
Même la mère elle-même, ah, ma mère, elle en a eu plusieurs, puis elle a pas eu de misère, puis c'est un modèle pour moi, ouais. Comment ça, moi, je suis pas capable, j'ai de la misère, tu sais, il y a ce petit jugement-là qu'on peut faire sur soi-même.
Tout à fait. La pression sociale est assez forte dans le monde de la parentalité pour faire les choses de la bonne façon. Il y a même Naître et grandir, là, qui est une référence en la matière en développement des enfants, qui a fait une publicité là-dessus pour vraiment sensibiliser au fait qu'on se met de la pression. Puis en fait, parents, ça ne devrait pas être une compétition, mais c'est le monde dans lequel on vit présentement. Donc ça peut effectivement rajouter au défi des nouveaux parents de sentir que, bien, premièrement, c'est ça, les autres avant nous ont fait ça, puis ils étaient forts, puis ils sont passés au travers. Pourquoi moi, j'ai de la difficulté? Puis aussi beaucoup de se comparer, puis de ne pas se trouver suffisant. Ça fait clairement partie là, de la problématique.
Parce que la sensibilité auprès de la nouvelle génération est beaucoup plus forte qu'avant. Avant ça, les mamans, c'était fait fort, ça se cachait pour pleurer. Aujourd'hui, on est comme un petit peu plus, comme on pourrait dire, ouvert peut-être à ce genre d'émotions-là. Fait que ça fait en sorte qu'il ne faut pas se cacher derrière ça. Au contraire, je pense qu'il faut évacuer. Hein.
Exactement. Si on est capable d'avoir de l'aide dans notre entourage, de pouvoir nommer comment on se sent, de le dire justement que c'est peut-être pas la plus belle période de notre vie. On vit des moments d'extrême bonheur. Comme Rebecca parlait tout à l'heure aussi, peut-être on a des très bonnes journées aussi, peut-être qu'il y en a des plus difficiles. Puis je pense que justement dans la prévention, pour ne pas s'enfoncer, bien, l'idée c'est de pouvoir discuter de ces choses-là avec des gens de confiance. Puis de ne pas hésiter à demander de l'aide.
Bon, c'est ça. Une personne qui n'a pas de famille ici dans la Manicouagan, qui n'a personne à qui se confier, comment la Maison des familles entre en scène à ce moment-là?
Bien, écoutez, en tellement de choses, puis c'est ça qu'on parle souvent entre collègues, on se dit qu'on a plusieurs chapeaux qu'on voit pas nécessairement quand on regarde la Maison des familles. Premièrement, on a une très grande programmation avec beaucoup d'activités qui permettent à la maman de socialiser puis de respecter son rythme aussi. Donc, elle peut commencer en venant à des petites activités ici, là. Après ça, elle peut s'inscrire à des groupes comme on a la marche, le club de marche qui est à chaque semaine. Donc, on respecte vraiment le rythme de la maman et du papa. Les papas sont bienvenus aussi à la Maison des familles. On le dit rarement, mais oui, les papas sont toujours bienvenus à la Maison des familles dans nos activités. Donc, c'est ça. On a aussi plein, une foule d'autres services qui peuvent venir en aide aux parents. On a des groupes de soutien, justement, qu'on a fait... c'était à l'automne dernier?
Au printemps dernier.
Au printemps dernier, on a un groupe de soutien qu'on appelle la pause créative. Écoutez, on en a vraiment une foule. On a aussi des intervenantes qui sont là, des intervenantes de proximité qui peuvent avoir des rencontres là, avec les parents de one-on-one pour discuter des problématiques, mettre des choses en place aussi. Là.
Fait que là, c'est pas nécessairement des activités en lien avec la dépression du postpartum. Il y a plein d'activités où ce qu'on peut se permettre peut-être de socialiser, puis de peut-être de dire, bah, mais moi, je fais pas, ouais, moi aussi, je suis passé par là, puis de discuter avec une autre personne qui peut-être...
Savoir que nous ne sommes pas
seuls.
C'est
ça, ouais, voilà.
C'est ça, c'est vraiment le climat qu'on essaie d'instaurer, nous, à la Maison des familles, dans nos activités, de briser l'isolement, puis aussi briser cette compétition-là entre parents, plutôt pour amener le sentiment d'appartenance, puis qu'on n'est pas seul.
Oui, créer de la complicité. Parce que ceux qui sont passés là, les mamans qui sont passées là avant, peuvent dire, ben moi, j'ai fait ça, ça m'a aidé, tout ça. Ça accélère le processus de ce côté-là. Là.
Puis Rebecca, elle est bien humble, puis elle a oublié le service principal pour lequel elle travaille quasiment tous les jours, dans le fond, puis qui est super utile en cas, justement, de dépression postpartum. Ou si justement ça va pas bien puis on est peut-être sur une pente descendante, on offre un service de relevail qui est du répit à domicile. C'est un 3 heures semaine. Donc, Rebecca, c'est sa tâche principale à la Maison des familles. Elle va chez les gens, les aider. Ça peut être autant, tu sais, pour des tâches ménagères, pour surveiller bébé pendant que peut-être maman justement reprend du sommeil qu'elle avait. Prendre un bain, prendre du temps pour soi. Ces personnes-là sont soit marraines d'allaitement, monitrices de portage, tout ça. Fait qu'on en profite aussi pour faire de l'enseignement aux parents, les accompagner dans leurs défis. Fait que voilà, fait que c'est un service qui est super apprécié puis duquel il ne faut vraiment pas se priver quand ça ne va pas. Fait que c'est un peu notre message, je pense, ce matin, que c'est n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des doutes sur votre santé mentale, sur comment ça va.
Fait que là, c'est pas le CLSC, c'est pas l'hôpital, c'est rien de ça. C'est la maison des familles qui offre ce service-là.
Bien, idéalement, c'est une combinaison de tout ça. On a besoin de professionnels et tout. Nous, on est comme plus les bras qui viennent supporter quand justement notre réseau ne comprend pas ou n'est pas présent, ne peut pas l'être parce qu'il y a la distance, parce qu'il y a le travail, etc.
OK, parce qu'il y a un embourdement aussi là, au niveau du système de santé. C'est difficile d'avoir affaire à un professionnel. Fait que si on a déjà un premier jet avec vous, que vous allez peut-être pouvoir accélérer le processus d'une façon... c'est merveilleux, là, écoute.